Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, interview exceptionnelle de Yannick Bolloré, PDG d'Havas et président du conseil de surveillance de Vivendi, sur la terrasse même de Vivendi. Pour ceux qui sont en radio, je vous invite à nous regarder en télé, ça vaut le détour. On va essayer d'explorer les grands sujets de cette rentrée pour la pub, la com et les médias. Ensuite, on passera à un nouveau format incarné par notre journaliste Simon Tenenbaum qui passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com. Et puis pour terminer notre focus de la semaine, à l'heure du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, on a voulu se demander si les sportifs n'étaient pas les meilleurs ambassadeurs pour les marques aujourd'hui. Ce sera notre focus avec nos experts tout à l'heure en fin d'émission. Voilà le programme, tout de suite on retrouve notre invité.
Hebdo.com sur BFM Business.
Yannick Bolloré, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir sur la terrasse de vos bureaux. On a de la chance avec le temps aujourd'hui. Vous êtes président d'Havas, président du conseil de surveillance de Vivendi. Deux casquettes différentes qui vont toutes les deux nous servir aujourd'hui à essayer d'explorer les sujets, les dossiers de cette rentrée pour la pub, la com, les médias. Ma première question, c'est comment est-ce que vous appréhendez la rentrée pour le marché de la pub? Est-ce que ça sent bon, pas bon, surtout dans un contexte où l'inflation est forte, notamment pour les grands distributeurs qui font partie des gros annonceurs? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Alors, c'est une très bonne question, évidemment. Alors d'abord, il faut rappeler que le premier semestre a été très bon pour l'industrie, notamment pour Havas, qui a affiché une croissance importante.
J'allais le rappeler.
Et deuxième semestre qui démarre, puisqu'on est au tout début du mois de septembre. Pour l'instant, on n'a pas de signaux d'inquiétude. Ce qu'on entend de la part de nos clients, c'est une poursuite de leurs investissements publicitaires sur cette deuxième partie de l'année. On a la Coupe du Monde de rugby qui démarre ce vendredi, qui devrait driver...
Vivendi qui est d'ailleurs sponsor officiel.
Voilà, Vivendi est d'ailleurs un sponsor et fier d'être sponsor de cette Coupe du Monde en espérant que la France ait un beau parcours lors des prochaines semaines.
On y croit pour cette année.
On y croit, on est l'un des favoris, on verra. Et non, j'aborde ce deuxième semestre, malgré le contexte incertain que vous avez décrit, plutôt avec confiance et sérénité.
Vous sentez quand même une inquiétude ou pas du tout?
Oui, il y a évidemment une inquiétude. Les trois dernières années ont été difficiles pour l'ensemble des industries. On a quand même eu une pandémie majeure qui a été suivie de dérèglements dans la chaîne du transport. La guerre qui a démarré, qui a beaucoup affecté la plupart de nos grands clients. Donc nos clients sont plutôt inquiets, incertains. Mais les fondamentaux sont plutôt bons. Les résultats des grandes entreprises françaises et internationales qui ont été publiés pour le premier semestre fin juillet ont plutôt été positifs. Donc j'entends plutôt une poursuite des investissements qui restent, et je le dis et c'est important pour votre émission de communication, pas une dépense. Les investissements pub ne sont pas une dépense, mais un investissement qui génère des retours sur investissement dans les mois qui suivent.
L'actualité, c'est aussi, vous le disiez, la guerre et notamment ce qui se passe en Afrique, au Gabon. Depuis quelques jours, des filiales de Canal et Havas sont présentes au Gabon, avec Havas Africa Gabon notamment. Quelles sont les conséquences de ça et comment on gère ça?
Écoutez, c'est évidemment des sujets très compliqués qui nous dépassent. Le groupe n'est pas du tout présent en termes de politique. On a des équipes sur place. Le plus important, quand il y a des changements de la sorte, c'est d'abord de s'inquiéter pour nos équipes, d'être sûr qu'elles sont toutes en sécurité. Ce qui semble être le cas à l'heure où je vous parle, ce qui pour nous nous rassure. Et
puis quels sont les premiers retours de vos équipes?
Pour l'instant, tout le monde est en sécurité et en bonne santé. C'est pour l'instant ce qui nous importe le plus.
Et il y aura des conséquences économiques potentielles de ce qui se passe?
C'est difficile de le dire. Là, c'est encore des nouvelles qui sont très fraîches. Ce qui est certain, si vous prenez l'analogie avec la Russie et l'Ukraine, ça a évidemment eu des conséquences dramatiques. Des deux côtés, même sur certains pays frontaliers, avec des baisses importantes des investissements.
Vous le disiez tout à l'heure, Havas affiche des très très bons résultats, des meilleurs résultats des grands groupes de com dans le monde, avec près de 5% de croissance au premier semestre. Vous venez d'investir au Royaume-Uni avec l'acquisition d'une nouvelle agence Uncommon et tout récemment en Australie, j'ai lu ça hier. Quel est le programme pour la suite d'Havas cette année? Est-ce qu'il y aura des nouveautés phares? Est-ce que vous allez continuer cette politique d'acquisition internationale?
Oui, alors le groupe Havas mène une politique d'acquisition active avec entre 5 et 10 acquisitions par an selon les années. L'an dernier, c'était 9 acquisitions. D'ores et déjà, 2023, 5 acquisitions ont été réalisées. On a annoncé une acquisition en Australie hier. Magnifique acquisition que vous avez mentionnée à Londres et au Royaume-Uni, The Uncommon, qui est peut-être l'une des plus belles agences créatives européennes. D'abord, je suis très fier que des agences aussi prestigieuses choisissent de rejoindre Havas, puisque c'est évidemment une compétition entre grands groupes de communication, d'être capable d'attirer les meilleures agences, les meilleurs talents au sein de notre groupe. Donc c'est d'abord une fierté. Et ensuite, le groupe va continuer d'investir de manière ciblée dans certaines agences, dans certains pays, selon les spécialités et nos besoins également.
D'autres nouveautés pour l'année ?
Oui, on travaille sur des projets un peu partout dans le monde d'ailleurs, puisque les acquisitions se font partout dans le monde. Vous avez mentionné l'Australie, l'Angleterre. Il y a également eu l'Asie avec une acquisition en Inde au mois de juin, l'Allemagne, donc au Canada aussi également. Donc c'est très, très varié géographiquement ainsi qu'en termes de discipline.
Un mot sur les plateformes et sur l'arrivée notamment de la pub sur les plateformes. Netflix qui s'y est mis il y a un moment avec une offre moins chère avec publicité. Disney Plus qui s'y met le mois prochain. J'aimerais avoir votre regard sur le sujet. Est-ce qu'on doit se dire attention, la concurrence devient mondiale, donc ça peut être dangereux pour nous? Ou est-ce qu'on doit se dire au contraire c'est un nouveau challenge et c'est un nouveau terrain de jeu pour les agences?
C'est les deux, hein. Évidemment, la concurrence est mondiale aujourd'hui. Les plateformes représentent, si vous prenez les États-Unis, les plateformes, donc le streaming, si vous additionnez Netflix, Hulu, Disney+, etc., représentent un tiers de l'audience, hein, maintenant, de la consommation de contenu à la télévision. Donc c'est un enjeu majeur. Mais c'est en même temps une opportunité pour les annonceurs et pour les groupes de communication de trouver des nouveaux territoires d'expression, des nouvelles façons d'annoncer. Donc d'une manière générale, chaque changement, chaque crise est également une opportunité. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en grec ancien, comme en chinois, c'est le même mot pour décrire un challenge et une opportunité. Donc nous, on essaye de le voir de manière positive et en tout cas de s'adapter constamment, comme on le fait depuis 1835 maintenant chez Havas.
Comme l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace? Vous le voyez comment? Pareil, un challenge?
Alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez spécial, hein, surtout l'intelligence artificielle générative qui est capable de produire du texte mais également des images de très grande qualité. Donc c'est à la fois une menace et une opportunité, encore une fois. Si vous me permettez une analogie, ça me rappelle l'invention de la photographie dans les années 1830. Ce qui est évidemment une révolution pour les peintres.
Hein, qui vivaient, mais c'était pas une menace.
Si, c'était une menace pour les peintres.
Ah, pour les peintres.
Ouais. Pour les peintres qui vous peignaient vos portraits de vos ancêtres, des scènes mémorables. L'invention de la photographie aurait pu tuer toute la peinture. Mais non seulement elle ne les a pas tués, elle a créé et donné naissance à des mouvements, le surréalisme, l'expressionnisme, l'impressionnisme. Donc je ne crois pas que l'intelligence artificielle va tuer l'industrie de la création graphique ou de la production de textes, mais elle va tuer les. Ceux qui sont average, disons médiocre en français, je ne sais pas si c'est la bonne
traduction. Ça va faire du tri en fait.
Donc il va falloir faire mieux que DALL-E, Midjourney ou Adobe Firefly, il va falloir faire mieux que ChatGPT, donc ça va être, je pense, une très belle opportunité, en tout cas créer une prime pour l'excellence qu'on revendique évidemment chez Havas.
Et comment vous allez l'exploiter de façon opérationnelle côté Havas et côté Vivendi en cette rentrée?
Alors opérationnellement, côté Havas, elle est déjà exploitée depuis le mois de novembre. D'ailleurs, j'avais fait ma carte de vœux de l'année dernière, donc en décembre 2022, pour souhaiter la bonne année 2023 avec l'intelligence artificielle générative. On l'utilise dans toutes nos agences créatives. Ça permet honnêtement de gagner un temps fou. Fait en 15-20 minutes, ce qui prenait 5-6 heures à faire avant. Donc
ça augmente la productivité.
Ça augmente la productivité. Puis on peut surtout se concentrer sur créer plus de valeur ajoutée pour nos clients. Donc je pense qu'à terme, les agences de communication, qu'elles soient grandes ou indépendantes, doivent se concentrer sur l'excellence et apporter une vraie valeur ajoutée à des clients qui ne pourraient pas faire ces choses-là en interne.
Et côté Vivendi, sur les médias, comment on se positionne?
Côté Vivendi, sur les médias, c'est le début, j'ai envie de dire. Il n'y a pas encore de séries ou de films créés uniquement à base d'intelligence artificielle. Ça existe sur la partie production avec disons, des fonds verts élaborés où maintenant on peut créer des scènes entières de cinéma avec de l'intelligence artificielle qui sont bien plus réalistes que ce qu'on pouvait faire auparavant. Mais là encore, ça va être la même chose. Il va falloir que les auteurs et les scénaristes, on en parle beaucoup avec la grève américaine, soient capables de faire mieux que ChatGPT, encore une fois.
Oui, c'est un sujet aussi pour vos journalistes. Comment ils appréhendent ça? Comment ils l'utilisent?
J'espère que les bons journalistes comme vous font mieux que ce que l'intelligence artificielle ferait. Ça va être un outil qui va vous aider à peut-être aller plus vite sur certaines choses, mais il va falloir en effet aller plus loin dans la quête d'excellence.
Un mot sur la fusion Vivendi-Lagardère. Maintenant que la Commission européenne a donné son accord, est-ce que vous en êtes? Quels sont les derniers rebondissements là en septembre?
Alors, c'est un dossier plein de rebondissements depuis 2 ans maintenant. Donc la Commission européenne, vous l'avez dit, a donné son accord sous réserve de l'exécution de 2 remèdes qui sont, un, la cession d'Editis et 2, la cession de Gala, qui sont actuellement en cours et on espère terminer d'ici la fin de l'année. On a un accord de cession pour Editis, qui est donc le deuxième groupe d'édition francophone au groupe IMI, qui est le groupe de Daniel Kretinsky. Et on a un accord pour la cession de Gala au groupe Le Figaro.
Un mot sur le JDD quand même. Comment on gère, en termes de com, une crise pareille, un peu sur le même modèle de ce qui a pu se passer au moment de ITLC News et Europe 1. En termes de com, comment on gère quand on a la quasi-totalité de la rédaction qui s'en va?
Alors c'est impossible pour moi de vous répondre à cette question, parce que tant qu'on n'a pas eu l'accord final de la Commission européenne de Bruxelles, il y a une loi qui nous interdit d'opérer ou de donner notre avis sur la gestion de la société cible, donc je ne peux absolument pas m'exprimer.
Mais il y a quand même un nouveau directeur de la rédaction qui est déjà en poste.
Oui, mais je ne peux pas, encore une fois, pour des raisons...
Pas de problème. Je fais mon métier, vous.
Oui, moi, je suis obligé de faire le bien, de respecter la loi. Donc je ne peux pas m'exprimer sur les sujets liés au groupe Lagardère tant que nous n'avons pas l'accord final de la Commission européenne.
Côté Prisma Media, cette fois, quelles seront les nouveautés de cette rentrée? Il paraît que Capital va basculer en hebdo, est-ce que c'est vrai?
Alors il y a eu déjà une grosse nouveauté qui était le lancement d'Harper Bazaar. Grande réussite, hein, la France qui est quand même la capitale.
Qu'on avait reçue dans HebdoCom l'année dernière.
Voilà, et donc la France qui est la capitale de la mode n'avait pas de version à elle d'Harper Bazaar. On avait une adaptation de la version européenne. Donc c'est une formidable nouvelle, le journal est un grand succès. Il y a des projets d'acquisition côté Prisma Media. Et des projets
en France, international.
Pour l'instant en France, mais pourquoi pas développer un jour Prisma Media à l'international.
Et Capital?
Alors Capital, ça faudrait que vous demandiez directement à la patronne de Prisma Media, à Claire Léost, ou ses équipes, ses projets.
Est-ce que vous aimez le rugby?
Oui, j'apprécie évidemment le rugby, oui.
Comment est-ce que, concrètement, le rugby et les JO vont vous porter côté Havas et côté Vivendi?
Alors le rugby d'abord porte, j'espère, tout le pays, toute l'économie du pays. C'est comme une fierté pour la France de pouvoir accueillir un événement aussi prestigieux que la Coupe du Monde. Vivendi en est le sponsor, donc l'accompagne depuis les premiers pas. Donc l'ensemble du groupe d'ailleurs Vivendi a travaillé autour de l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby, que ce soit Havas, Canal+, et l'ensemble du groupe. Les Jeux Olympiques, c'est un peu différent, on n'est pas partenaire. Et là, on travaille en tant que prestataire pour le comité olympique. Et moi, je me réjouis de voir les Jeux Olympiques revenir à Paris après ceux de 1924, donc 100 ans après.
Le sport toujours, l'appel d'offres des droits télé de la Ligue 1 a lieu dans quelques jours. Mmh. Est-ce que c'est une option pour Canal?
Alors ça, vous imaginez que je peux rien vous dire.
Et moi, vous imaginez que j'étais obligée de vous poser la question. Pour terminer cette interview, j'aimerais bien vous faire un petit questionnaire en rafale, question courte, réponse courte.
Ouais, allez-y, bien sûr.
Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il?
Ah, c'est une bonne question. J'aimerais bien m'occuper des autres. Voilà,
vous,
je ne sais pas sous quelle forme, mais m'occuper des autres.
Oui. Médecin, peut-être?
Un rôle où je serais utile à la société, oui.
Votre émission de télé préférée?
C'est évidemment l'Hebdocom sur BFM Business.
Phénomène Barbie, bonne ou mauvaise com pour les femmes?
Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais je suis papa de 4 filles. Donc je suis un grand militant de la cause de l'égalité homme-femme. Et mes filles l'ont vu.
Elles l'ont aimé?
Ça fait beaucoup réfléchir. Elles en parlaient, elles sont adolescentes, mais elles m'en ont parlé avec intérêt. J'ai hâte d'aller le voir, je n'ai toujours pas vu, mais voilà. En tout cas, vu le phénomène que ça génère, j'ai hâte d'aller le voir. Et puis, c'est toujours bien de pouvoir parler de ces sujets, mais je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas vous en parler plus.
Si vous deviez choisir entre C'est à vous ou Quotidien?
C'est à vous au quotidien. Je vous dirais TPMP, qui est le concurrent.
Évidemment. La télé traditionnelle est-elle en fin de vie?
Alors, c'est une question intéressante. On nous prédisait la fin de la presse il y a 10 ans, elle existe toujours. On nous prédisait la fin de la télé il y a 2 ans, elle continue d'exister. Et d'ailleurs, on parlait de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques à venir l'an prochain, je pense que la télévision continuera d'exister, d'être un rassembleur, un moment fort pour les familles, pour les Français et pour l'ensemble des spectateurs dans le monde. Après, elle doit s'adapter à une nouvelle forme de consommation qu'on appelle la consommation délinéarisée, où les téléspectateurs ont besoin aujourd'hui d'avoir la possibilité de regarder leurs émissions favorites comme l'Hebdocom, où ils veulent, quand ils veulent. Certains d'entre vous nous regardent peut-être en direct sur BFM Business, mais
d'autres
en replay sur une tablette ou sur leur smartphone. Donc c'est ça la nouvelle télé aujourd'hui.
Cyril Hanouna en trois mots.
Cyril Hanouna, d'abord, c'est un ami. On a démarré ensemble et je suis extrêmement impressionné du succès de son émission qui, je crois, fête ses 12 ou 13 ans cette année. Donc un grand bravo.
Elon Musk en trois mots.
Je suis fasciné, moi, par tout ce qu'il a fait, puisque chaque fois, il prend des sujets dits impossibles et réussit à les retourner. Donc, chapeau encore. Oui.
Votre prono pour la Coupe du Monde de rugby, pour la finale?
Pour la finale, j'aimerais que ce soit France-Irlande. Alors, je ne sais pas si elles peuvent s'affronter, ça dépendra de l'issue des poules, mais en tout cas, que la meilleure équipe gagne.
Et pour terminer, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose?
Non, c'était parfait. Vous avez très bien fait votre travail.
On a tout abordé.
Bravo.
On n'a rien oublié.
Rien oublié. C'est très exhaustif.
Merci beaucoup Yannick Bolloré. Vous êtes président d'Havas et président du conseil de surveillance de Vivendi. Merci de nous avoir accueillis sur la terrasse. Tout de suite, c'est parti pour les news d'Hebdocom avec notre journaliste BFM Business, Simon Tenenbaum.
Hebdocom sur BFM Business.
Les jeunes seront-ils au rendez-vous de la Coupe du Monde de rugby qui commence ce week-end en France? Face à une bataille de l'attention toujours plus féroce, le secteur des médias s'interroge. Seuls 31% des moins de 24 ans disent encore regarder du sport en direct à la télé. C'est plus des trois quarts pour les plus de 55 ans selon une enquête YouGov. À l'inverse, 80% des 15-24 ans affirment qu'ils suivront la Coupe du Monde de rugby sur les réseaux sociaux selon un sondage commandé par Meta, partenaire de l'événement. Cette bascule interroge au plus haut niveau. Le patron du rugby néo-zélandais, Mark Robinson, plaide pour des réformes sur le terrain, rendre le rugby plus spectaculaire avec moins de temps mort, plus de rythme, indispensable selon lui pour attirer des jeunes versatiles et conquérir de nouveaux marchés. Le sport, qui reste néanmoins dans certains cas un formidable aspirateur à audience. Pour le premier match de Léo Messi à l'Inter Miami cet été, Apple TV Plus a attiré 110 000 nouveaux abonnés en une seule journée selon des chiffres révélé par le Wall Street Journal. Bataille de l'attention toujours, mais chez YouTube cette fois, avec cette inquiétude de certains cadres de l'entreprise relayée dans le Financial Times, le succès des shorts, ces vidéos courtes, commence à cannibaliser les vidéos YouTube traditionnelles. Lancées pour contrecarrer TikTok, les shorts ont attiré plus de 2 milliards d'utilisateurs depuis leur lancement en 2021, mais c'est au détriment du reste de la plateforme, disent ses responsables inquiets, car les vidéos longues rapportent davantage en recettes publicitaires. On termine avec l'offre d'emploi de la semaine chez Disney aux États-Unis. 337 000 dollars annuels pour un poste de VP aux affaires publiques en charge de la communication de crise et de la réputation de l'entreprise. C'est ce que révèle The Intercept, une annonce publiée après une interview catastrophique du patron Bob Iger cet été au sujet de la grève des scénaristes. Grève qui arrive au pire moment, dit le boss, et dont les revendications ne sont pas réalistes. Bob Iger qui obtenait la veille une hausse de son salaire portée à 31 millions de dollars annuels. Avis aux amateurs de défis professionnels.
Hebdocom, ça continue sur BFM Business et à la veille de cette année sportive qui nous attend et puis le coup d'envoi imminent de la Coupe du Monde de rugby ce week-end, on a voulu se poser cette question pour notre focus cette semaine. Les sportifs sont-ils les meilleurs ambassadeurs pour les marques? Et pour en parler, j'accueille mes deux experts du jour. Valentin Richardot, bonjour.
Salut Rebecca.
Merci d'être avec nous dans Hebdocom et bienvenue dans l'émission. Tu es fondateur du média J'ai un pote dans la com. Et à tes côtés, j'accueille Valran Moulet-Berthaud qui connaît un petit peu plus l'émission. Salut. Salut Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es entrepreneur et fondateur du média Le Crayon. Donc on va essayer de décrypter tout ça, de décrypter votre avis et les réponses qu'on a reçues de vous, nos internautes, sur nos réseaux sociaux. Globalement, ce qui ressort, c'est que c'est 60% oui, 30% non. C'est la tendance qui est ressortie sur nos trois réseaux sociaux cette semaine. Déjà, ma première question, je me tourne vers tous les deux. On peut commencer avec toi, Valentin. Est-ce que tu es en phase avec la réponse de nos internautes?
Ouais, tout à fait. Le sondage, il est hyper révélateur de ce que les Français et les gens pensent des sportifs, notamment par la campagne Apple qu'on a vue avec les joueurs de rugby. Lorsqu'on parle de l'univers du sport et des sportifs, c'est des gens qui incarnent des valeurs, qui incarnent des choses. Et beaucoup des Français, des consommateurs se retrouvent dans ces valeurs-là. Et pour une marque, c'est hyper important parce qu'on va aller parler à une communauté qui est déjà engagée, et une communauté qui est composée de fans qui aiment ce dont on va leur parler, et pas uniquement des consommateurs classiques. Donc c'est hyper intéressant. Et ce sondage, il est évidemment en phase avec ce qu'on peut étudier, ce qu'on peut regarder aussi sur le média et les différentes habitudes de consommation des gens aujourd'hui.
Valorant, t'es en phase avec ce qui est ressorti aussi ?
Complètement, et puis on a pu voir même dans le classement 2023 des personnalités préférées des Français que dans les 20 premières, 5 étaient des sportifs, avec une petite spécificité, c'est que 5 étaient des footballeurs. Et que là, c'est aussi une grande première pour la France et pour l'Europe de manière globale, c'est que les sportifs sont vraiment mis à l'honneur, et puis par Apple, qui est quand même la plus grosse entreprise américaine, c'est vraiment un géant, on a tous des produits Apple, ou
juste
presque
pour
tous.
Recontextualiser, on parle de la campagne du nouvel iPhone par Apple qui a été réalisé avec des joueurs du 15 de France de la Coupe du Monde du rugby cette année.
Exactement. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces valeurs des sportifs, c'est pas seulement que ce sont des bonnes valeurs, évidemment que ça l'est et je pense que ça aide beaucoup, mais c'est aussi qu'on parle de personnalités qui capitalisent sur le marché de l'attention. Parce qu'on oublie trop souvent que le sport, au-delà de la performance, c'est aussi là où on a les plus grosses audiences.
On va essayer de comprendre pourquoi ces autres secteurs sont moins vecteurs de fascination finalement auprès des fans. Valentin, pour toi, simplement, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'une marque de se tourner vers le sport ?
C'est un intérêt qui est grandissant, Valorant, tu l'as hyper bien dit, à la fois sur les audiences, donc quand on est un annonceur, on cherche de la performance média, mais aussi pour un capital sympathie pour de la marque commerciale, de la marque employeur. Quand on réunit les deux, c'est de la marque entreprise, on veut capitaliser sur ces événements. Là, la Coupe du Monde de rugby arrive, ça aurait été une erreur pour beaucoup de marques de ne pas se positionner dessus, elles l'ont bien fait, on voit qu'il y a énormément de partenaires. On veut participer en fait à la fête, on veut participer à ces moments de rencontre. Ça va drainer énormément de monde. Et comme j'ai dit, c'est des gens qui sont fans. Donc adresser son message de marque, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pertinent. Et on s'approprie les valeurs du sport en fait. Et on dit voilà, le sport c'est sympa, c'est engageant, il y a des belles valeurs. Bah, je me mets en tant qu'annonceur, je capitalise là-dessus. Et par capillarité, je les récupère et je crée un biais cognitif. Bah, ma marque, elle est cool aussi.
Et c'est pas une solution de facilité justement ?
Je pense pas parce que. C'est assez engageant parce que le sportif, il a évidemment une posture, il a des avis, il a des performances aussi. Donc c'est pas une solution de facilité, c'est je pense plutôt l'inverse, quelque chose de beaucoup plus malin. Et c'est aussi encore une fois ce qu'on va en faire. Être partenaire d'un sportif et le payer pour qu'il parle de nous, c'est une chose. L'accompagner sur sa strate, le mettre en scène dans nos publicités, faire en sorte de créer du contenu entertainment avec lui, l'engager, créer du contenu. On n'est plus sur de la pub ni du sponsoring, on est sur du contenu brand entertainment qui est encore le niveau au-dessus. Et là, pour le coup, c'est hyper malin parce que ça performe très bien.
Valorant, parmi les leaders d'opinion, pourquoi les sportifs ont une place si particulière que ça ?
Moi, je pense qu'ils ont une place si particulière parce que ce sont probablement les pics d'émotions les plus forts qu'on peut ressentir en regardant un contenu. Ce qui va s'en rapprocher le plus, ça va être le cinéma. Mais le cinéma, par le fait que ça soit mis en scène, l'acteur n'est pas directement le personnage qu'on regarde. Alors que c'est le cas dans le sport. Quand Mbappé met un but en finale de la Coupe du Monde,
c'est Mbappé qui le met. Donc le sportif garde son identité.
Exactement.
Et c'est ça qui est porteur pour les marques.
Exactement, et c'est des grands moments. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qui est vachement intéressante à analyser, c'est que depuis peu de temps, les sportifs sont devenus des entrepreneurs. Et ça change énormément de choses du point de vue de la communication, parce qu'en fait, ils deviennent pas seulement, on va dire, des pages publicitaires pour les entreprises, ils deviennent aussi des co-créateurs de campagne et aussi des personnes avec lesquelles ils peuvent s'associer. On l'a vu notamment avec Kylian Mbappé, qui a une stratégie très à l'américaine sur sa communication, avec assez peu de sponsors, mais des très gros tickets, une participation lui-même, en fait, dans le produit ou dans la stratégie de la marque. Et je pense que, justement, de plus en plus de sportifs vont devenir soit propriétaires de leur entreprise, soit propriétaires de leur gamme au sein des entreprises. Et ce qui est intéressant avec le rugby, c'est que c'est en train de créer aussi un nouveau souffle sur un sport un peu plus collectif, en tout cas dans la perception du public, et un sport sur lequel on n'a pour l'instant pas encore beaucoup capitalisé, et donc qui est encore une aubaine pour les marques d'aller sur la Coupe du Monde de rugby, qui va donner en plus un coup de projecteur gigantesque à ce sport que j'adore à titre personnel, mais bon, ça n'engage que moi.
Je suis totalement, et juste pour rebondir, c'est la première fois qu'on a le nom des joueurs sur les maillots de rugby. Ça se faisait pas, on avait le numéro, le poste du joueur maintenant, contrairement au foot. Maintenant, il y a les noms des joueurs, ça veut dire aussi symptomatiquement que il y a un intérêt qui est grandissant, on va capitaliser, donc on va faire du business, on va vendre plus de maillots. Donc c'est plus exposé, ça fait plus d'audience, donc il y a plus de business. Donc c'est pas anecdotique, cette Coupe du Monde, elle va être assez révélatrice. Je sais pas combien elle va générer pour la fédération, mais en tout cas, il va se passer quelque chose d'un point de vue sociétal, et on voit avec les marques qui capitalisent dessus, C'est absolument fou ce qui est en train de se passer pour un sport qui était encore assez loin du foot il y a quelques années, qui maintenant revient très fort.
Et Apple, qui en plus d'être une très grosse entreprise, a une excellente image de marque. Donc en plus pour les joueurs et les rugbymen, c'est un excellent pari, parce que exactement, être validé par Apple en quelque sorte, c'est pas rien.
Je me permets de rajouter qu'on a Antoine Dupont qui est le meilleur joueur du monde de rugby. Faut être fou pour pas le mettre en scène dans sa campagne de marque. Faut être fou pour pas l'exploiter.
C'est la meilleure année pour.
Voilà. Donc on a le meilleur joueur du monde. Il faut capitaliser d'un point de vue financier pour faire du business, et c'est ce qu'ils ont fait admirablement, je pense.
Alors pour terminer, de manière plus globale, une question qui m'importe tout particulièrement, c'est quid des sportives ambassadrices ? Parce qu'on parle du sport, on parle des personnalités fortes, on parle des ambassadeurs sportifs. Où sont les femmes en fait ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, le sport féminin génère moins d'audience intrinsèquement, c'est-à-dire en tant que produit audiovisuel. Donc je pense qu'il y a énormément de combats à mener de ce niveau-là. La Coupe du Monde féminine récente de football avait été quand même un assez gros succès de ce point de vue-là. Donc je pense que ça va monter, mais ça va prendre encore beaucoup de temps avant de vraiment arriver à des niveaux stratosphériques. En revanche, je pense que les femmes, par ce discours aussi féministe qui émerge de plus en plus sur les réseaux sociaux, ont l'opportunité de capitaliser sur leur performance d'athlète pour se mettre en avant, raconter une histoire, et du coup avoir des abonnés ou une audience sur les réseaux sociaux totalement décorrélée de l'audience de leur sport ou de ce qu'elles pratiquent. On peut voir ce qu'a fait Morgane Rapinoe, l'américaine, dans le football. Son audience et son impact de média est beaucoup plus puissant que son impact footballistique. Donc je pense qu'il y a une porte d'entrée pour les sportives, mais il faut prendre la verticale réseaux sociaux et commencer à raconter son histoire et raconter une histoire de sportive avant de capitaliser sur ses propres performances audiovisuelles, qui pour l'instant sont quand même loin derrière celui des garçons.
Bah la campagne d'Adidas qui est sortie il n'y a même pas deux jours rebondit très bien à ce que tu viens de demander en termes de questions, parce qu'on voit des femmes qui incarnent ce sport-là, malgré l'image du rugby qui est un peu rugueux, etc. Dans les perfs et dans les stats, l'équipe féminine de rugby fait des scores de fou. Pour le coup, il n'y a pas de moins bon, de meilleur ou pas. C'est une équipe qui est absolument dingue. Il y a des profils de fou. Et à côté de ça, en plus, ce sont des profils qui montent des entreprises à côté. Il y a des entrepreneuses. Il y en a qui sont étudiantes en droit. Donc c'est absolument fou. Et la dernière campagne d'Adidas met bien ça en avant. On sort vraiment de ce cliché rugbyman un peu viril, un peu franchouillard, c'est un jeu technique, on peut intégrer différents types de communautés et on peut prendre du plaisir. Et du coup, Adidas, pour le coup, a très bien compris ça mais donne une belle place aux femmes, et je pense que c'est l'un des meilleurs sports pour ça aujourd'hui.
Merci beaucoup, Valérie Gleyber, d'avoir été avec nous. Merci, Valentin, d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
C'est la fin d'Hebdo.com, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le week-end prochain sur l'antenne de BFM Business et évidemment en replay, en podcast et sur l'application. Et on termine cette émission avec notre campagne préférée que l'on a sélectionnée avec CB News et son concours historique créatif, le Hit Parade. C'est une campagne qui dénonce les conditions de travail des internes en médecine. Une campagne de l'intersyndicale ISNI. Entre stress, précarité, charge mentale, encombrement des urgences, abandon de la médecine généraliste et fermeture des laboratoires et des maternités. Un film très puissant signé Ogilvy Paris avec Mathieu Elkaïm et Benjamin Bréjot à la création. Très très bon week-end sur BFM Business.
Je jure, par Apollon médecin, par Asclépios,
par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses,
les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant.
Je prendrai soin des 20 millions de personnes qui viennent chaque année aux urgences.
Malgré les symptômes dépressifs et les idées suicidaires accablant 26% des internes en médecine.
Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement.
En dépit du dépassement du cadre légal des 48 heures par semaine, comme 70% des internes.
Future mère, j'offrirai le meilleur accompagnement, malgré la fermeture de 221 maternités en 3 ans.
Si je remplis ce serment sans l'enfreindre,
qu'il me soit donné de jouir heureusement de ma vie et de ma profession.
Honoré à jamais des hommes.
Si je me parjure,
puisse-je avoir un sort contraire.
Hebdo.com sur BFM Business.